avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
Ça est déjà de gauche.
Non.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture et société. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois un homme qui a visité quelques-uns des plus beaux stades du monde, qui a assisté à quelques-unes des plus belles rencontres en sa qualité de consultant pour beIN Sport. Je parle bien sûr de Bruno Chéroux. Avant de former avec Julien Brun l'une des paires de commentateurs les plus appréciés par les fans de foot, il a été joueur de Liverpool, Marseille, Bordeaux, Rennes, Nantes et surtout Lille, club dans lequel il a explosé. Dans ce 58e épisode, Bruno Chéroux nous parle de son activité de consultant sur beIN Sport, de Lille où il s'est révélé, de ses désillusions à Bordeaux et Rennes notamment, et de ses rêves de Ligue des Champions avec les féminines du PSG dont il a la charge. Et je vous laisse découvrir tout ça dans le nouvel épisode de Banquette. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Alors là, tu nous reviens tout juste de Toulouse, on en parlait juste avant de commencer l'enregistrement, où tu as commenté le match entre le TFC et l'OL. C'est maintenant ta vie d'aujourd'hui, un peu, consultant pour beIN Sport. Comment ça se passe ?
Bien, très bien. Ça va faire maintenant 6 ans que je suis consultant aussi, et j'apprécie, et ça se passe plutôt bien, donc je suis très content.
Tu es en duo avec Julien Brun, c'est ça ?
Alors oui, depuis 2-3 ans maintenant, 3-4 ans, je suis avec Julien Brun. J'avais commencé avec Philippe Genin. Mmh. Et voilà, après, on a maintenant plus des paires fixes, mais ça m'est arrivé de commenter avec d'autres journalistes. Donc c'est bien de pouvoir changer aussi de temps en temps, d'avoir d'autres personnes avec qui échanger et commenter un match.
Donc là, tu as dit, maintenant, vous êtes plus sur des paires fixes. Est-ce que tu es au courant qu'avec Julien Brun, vous formez une des paires de commentateurs les plus appréciés des téléspectateurs ? Je ne sais pas si je te l'apprends ou pas.
Si. Non, en fait, moi, je regarde pas trop tout ce qui se dit. Je suis pas très réseaux sociaux, donc forcément maintenant tous les retours sont via réseaux sociaux. Et moi, je préfère ne pas être dessus, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de retours. Après, je sais que Julien, il m'en parle un peu de temps en temps, mais je préfère continuer de faire mon job et être assez hermétique aux critiques, qu'elles soient positives ou négatives.
Ouais, bon, en tout cas, moi, je te le dis, c'est vraiment ce qui ressort beaucoup chez les passionnés de football. Il y a comme une espèce de football authentique dans vos commentaires, c'est ce qui ressort beaucoup chez les passionnés. Et tu l'as dit, t'es pas sur les réseaux sociaux, c'est un truc qui t'a jamais intéressé ou c'est juste parce que t'as peur justement de ce qu'on pourrait dire sur toi ou les reproches qu'on pourrait te faire vis-à-vis de ta carrière antérieure ?
Non, je pense que c'est surtout par rapport à une projection dans le futur où en fait, je vais pas être consultant toute ma vie et je pense que... Être sur les réseaux sociaux, c'est bien quand on est journaliste, je pense que c'est très important, la popularité, et maintenant on a vu l'importance que ça a pris même par rapport à la popularité de certaines personnes, à la rémunération, à beaucoup de choses. Mais je préfère être hermétique à tout ça, un peu en retrait, pour ne pas avoir à me disperser à un moment donné, parce que j'ai peur de devenir complètement addict, peut-être, d'une certaine manière. Et j'ai un peu peur de la perversité des réseaux sociaux. Je vois beaucoup de choses négatives et peu de choses très positives. Donc, je préfère être en retrait. Et très sincèrement, je ne m'en porte pas forcément plus mal.
Ok, bon, pour revenir plus à ton métier de consultant, comment tu prépares tes matchs ? Comment, avec Julien et les autres journalistes, quand tu es avec eux, comment tu prépares, toi, tes matchs à commenter ?
En fait, moi, la meilleure préparation d'un match, c'est de regarder les matchs précédents. Après, bien entendu, qu'il y a la documentation et les informations sur les journaux, sur les quotidiens. Mais la principale source pour moi qui me permet de préparer les matchs, c'est par exemple hier, on a fait Toulouse-Lyon. La meilleure préparation, c'est de regarder le match précédent de Toulouse, le match précédent de Lyon. Et dans ces cas-là, on a les informations sur les joueurs qui sont en forme, les joueurs qui ont marqué, les joueurs qui jouent, les joueurs qui jouent pas, les joueurs qui sont blessés. Et voilà, donc... pour être très honnête et certainement pour anticiper vos prochaines questions,
on peut se tutoyer, t'inquiète.
Ouais, le fait de préparer ces matchs ou de travailler en regardant des matchs de foot, je pense qu'il y a énormément de gens qui aimeraient pouvoir travailler en regardant des matchs de foot, et moi c'est un peu ce que je fais, donc c'est pour ça que on kiffe bien.
Et d'ailleurs, en parlant de matchs de foot, c'est lequel ton préféré, celui que tu as préféré commenter, ton meilleur souvenir de match ?
Alors, il y a eu un Chelsea-Paris Saint-Germain.
En Ligue des Champions.
En Ligue des Champions, où Thiago Silva, David Luiz marquent les buts de la tête au bout de la nuit, quand Zlatan il se fait éliminer. Et ce match-là, j'étais avec Smail Bouabdella. Et c'était, ça reste certainement mon meilleur souvenir de commentateur. Parce qu'il y avait vraiment du parti pris, il y avait vraiment l'envie que le Paris Saint-Germain gagne, il y avait envie que le club français batte le club anglais. Et puis il y avait un scénario absolument incroyable avec Zlatan qui se fait expulser, avec les têtes un peu désespérées de Thiago Silva ou de David Luiz qui finissent par donner la victoire au Paris Saint-Germain. Donc voilà le scénario du match, on était complètement dedans, on était dans la tribune à Stamford Bridge de presse. Et moi, je tapais sur la table. Les autres, ils nous regardaient, ils étaient dégoûtés. Mais nous, au final, on était bien. C'était exceptionnel.
C'était un total régal, comme dirait Smail, c'est ça.
C'est ça.
Et je suppose que supporter, c'est un lapsus révélateur. Mais commenter une équipe française en compétition internationale, que ce soit l'équipe de France ou un club, c'est quand même plus kiffant parce que t'as plus cette part un peu d'objectivité. C'est-à-dire que tu peux être un peu supporter. C'est ça qui est mieux, non?
Complètement. Les matchs de Lyon, les matchs de Paris, les matchs de Marseille en Coupe d'Europe sont toujours beaucoup plus passionnés, avec certainement un commentaire un peu plus dynamique, parce que justement on est en droit de se lâcher. Quand hier à Toulouse-Lyon, il faut qu'on garde un maximum d'objectivité et d'impartialité. Là, c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, c'est un peu différent. Après, l'équipe de France, c'est encore autre chose. J'ai eu la chance de pouvoir faire l'Euro avec Christophe Joss et commenter la France. On est toujours un peu supporter, mais aussi très critique, et on est tous un peu sélectionneurs, donc c'est un peu différent, c'est pas forcément plus facile.
Ouais, d'ailleurs, la Coupe du Monde, on peut revenir dessus. Comment toi tu l'as vécu? T'étais en Russie, t'as commenté quoi comme match?
J'ai pas commenté la France,
ouais,
mais j'ai commenté le Brésil, j'ai commenté la Belgique, j'ai commenté des matchs plutôt sympas.
C'était la première fois que t'étais à la Coupe du Monde ou
non,
2014?
J'avais fait le Brésil.
Ok, et comment en tant qu'ancien joueur, en tant que fan de foot, qu'on se retrouve dans la plus belle compétition du monde, de nation en fait. Comment on se sent à ce moment-là?
C'est exceptionnel, franchement. Bon, ouais. Au Brésil, c'était encore mieux. Je pense que la Coupe du Monde au Brésil, c'était très certainement un rêve de gosse qui se réalisait, même si ce n'était pas de manière directe sur le terrain en étant acteur, mais le fait de pouvoir y participer comme ça, c'était... C'était assez magique. En Russie, c'était aussi quelque chose de sympathique. Mais bon, la Russie, c'est pas autant football que pouvait l'être le Brésil. Et ça reste plutôt sympa, encore une fois, de pouvoir participer à une compétition internationale comme celle-là. J'ai eu la chance de faire deux fois l'Euro, de faire une Copa América aussi au Chili, et de faire deux Coupes du Monde. Donc voilà, c'est plutôt cool.
T'étais où le 15 juillet 2018?
Dans les locaux de beIN Sport.
Ouais.
Parce qu'il y avait... une émission qui entourait la finale. Et donc forcément, on a fait un avant-match et un après-match. Donc on était à beIN Sport en travaillant. Mais
ouais.
Bon, voilà, on n'a pas pu partager ça avec les amis, mais quelque part, c'était plutôt sympa de travailler par rapport à un titre à fêter de champion du monde.
Ouais. Et pour revenir sur les matchs que tu commandes, qu'est-ce que tu regardes en priorité? Quels sont les éléments qui vont te taper dans l'œil quand tu commentes un match, même quand tu regardes un match en général sans le commenter chez toi, qu'est-ce qui va te taper dans l'œil?
Alors c'est complètement différent. Quand je regarde chez moi un match, je ne suis pas dans le mode travail. Donc je suis un peu plus ou supporter ou j'apprécie la qualité du jeu. Alors que quand je travaille, quand je commente un match, je ne suis pas trop dans la qualité du jeu. Je suis plus dans l'analyse technique, dans l'analyse tactique. Donc il n'y a pas de bon match ou de mauvais match quand je commente. Il y a plus des matchs à essayer de sublimer d'une certaine manière, d'expliquer aux téléspectateurs ou de raconter quoi.
Et du coup, bon, le plus intéressant, c'est quand même quand tu regardes des matchs chez toi, parce que c'est là que tu apprécies vraiment la qualité. Donc du coup, qu'est-ce qui te plaît dans un match de football aujourd'hui?
C'est le rythme, c'est la vitesse, c'est les buts, c'est les gestes techniques, c'est la volonté et la détermination que les joueurs peuvent mettre dans un match.
Donc c'est plus ça que un style de jeu en particulier.
Oui, même pour
t'as pas d'école,
ouais. Non, moi, j'étais pas très fan de l'époque Barcelone, quand ils conservaient le ballon. Ça me saoulait plus qu'autre chose. C'était même pas intéressant à voir jouer. C'était que de la possession, des passes à 3 mètres, 4 mètres. Ils allaient à droite, ils allaient à gauche, ils avançaient, ils reculaient, puis Messi finissait par marquer.
Même les premières années de Guardiola
Non, mais bien sûr qu'une fois de temps en temps, ça va. Mais après, c'était tellement répétitif et c'était tellement la même chose que ça m'amusait pas beaucoup. Je préférais le Dortmund de Jürgen Klopp, je préférais... même Liverpool, je préfère des équipes où il y a peut-être un peu moins de qualité technique, mais où il y a plus d'envie, où il y a plus de... C'est beaucoup plus débridé.
Ouais. Et toi, T'aurais aimé jouer dans une de ces équipes-là, Dortmund ou Liverpool de Klopp, toujours, plutôt que dans le Barcelone de Guardiola.
Ouais, je pense.
Toi, t'étais quel genre de joueur, justement ?
Bah, j'aimais bien la passe, j'aimais bien la conservation, mais là, c'était excessif.
C'était trop ?
Ouais. Après, c'était beau et c'était bien et c'était une maîtrise exceptionnelle. Mais j'étais pas un grand fan de ce style de jeu, de l'hyper-possession.
Ouais. Bon, on va revenir sur ta carrière de joueur qui commence à Lille, mais même un petit peu avant, je crois, en junior, tu as un parcours à Lens, tu as fait quelques années à Lens et après Lille. Comment s'est fait ? C'est les deux clubs ennemis du Nord. Comment tu as fait pour aller de Lens à Lille ?
En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, je quitte la région parisienne pour aller à Lens, au centre de formation. Et après 3 ans là-bas, le club, l'équipe première devait se maintenir. C'était un peu compliqué. Et mon coach de jeunes avait été appelé avec l'équipe première. C'était Daniel Leclerc. Et entre-temps, ils n'avaient pas négligé les jeunes, mais un petit peu. Donc, ils avaient envoyé les lettres à bon nombre de jeunes en leur signifiant qu'ils n'étaient pas conservés. Donc c'était un peu la surprise pour moi et même pour les autres. Donc au final, j'étais à 18 ans, j'avais pas fait un match en pro et Lens me disait qu'il ne me conservait pas. Et dans le même temps, il y a mon frère qui a 3 ans de moins que moi qui est contacté par Lille pour venir lui aussi au centre de formation de Lille. Lille me connaissait parce qu'il voulait déjà me récupérer 3 ans auparavant. Et ils me connaissaient aussi parce qu'en jouant à Lens, je jouais contre eux régulièrement dans les équipes de jeunes. Et quand ils ont appris que j'étais laissé libre par le Racing Club de Lens, ils m'ont tout de suite demandé de venir et j'ai signé là-bas.
Donc à ce moment-là, il n'y a pas de « j'étais sans et or » et « je signe chez l'ennemi ». C'est vraiment « tu voulais jouer au football et donc tu signes dans le… »
Exactement.
Ouais.
Après, c'est de la faute de Lens, hein, quelque part. Je pense qu'ils s'en sont voulu après quand ils ont vu que j'avais pu faire une carrière professionnelle. Mais… il n'y avait pas d'état d'âme à avoir à partir du moment où ils me laissent libre. Moi, j'étais là pour essayer de vivre ma passion et d'essayer de passer professionnel. J'avais 18 ans, j'étais à deux doigts de revenir à Paris, de retourner chez mes parents, d'aller dans une école de commerce ou je ne sais pas, faire ce que les autres font de mon âge, quoi.
Ouais. Donc finalement, tu finis à Lille et tu deviens pro en D2 d'abord et tu t'imposes, si je ne me trompe pas. Avec à la clé montée en Ligue 1, je crois en 2001, si je dis pas de bêtises, ou 2000, je sais plus trop.
2000,
c'est ça. Tu arrives en Ligue 1, je crois que c'était première division peut-être à l'époque. Tu étais serein à ce moment-là ? Tu pensais que tu allais t'imposer ou en tout cas réussir à.
Très serein.
Très serein.
Non, mais je me souviens que quand on monte, c'était Vaïd le coach,
ouais.
Donc l'actuel entraîneur de Nantes. Et il avait reçu tous les joueurs de l'effectif. À la fin pour leur expliquer bon voilà on monte en Ligue 1 certains il leur a dit qu'ils voulaient pas les garder d'autres il leur a mis un peu la pression pour leur dire qu'il fallait qu'ils se bougent un peu les fesses et puis moi je lui dis écoutez il me dit Bruno tu crois que t'es capable de jouer en Ligue 1 je dis mais coach parce qu'en fait Vaïd il faisait peur à beaucoup de gens et moi il me faisait pas peur je sais pas pourquoi j'arrivais à sentir chez lui la justesse et la justice. Et donc, il ne me faisait pas peur. Et donc, je lui ai répondu très calmement, alors que j'avais 19 ans ou 20 ans. Je lui ai dit, mais moi, coach, je ne joue pas au foot et je n'ai pas fait tous ces sacrifices pour jouer à Cuiseaux-Louans ou à Châteauroux. Je veux aller au Vélodrome, je veux aller au Parc des Princes et je ferai tout pour y arriver, quoi. Et il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, ah bon, Bruno, tu parles comme ça, tu parles comme ça. Et puis finalement, bon, après, il m'a fait confiance et on a eu une réussite exceptionnelle avec Lille sur les 2 années suivantes, quoi.
Ouais, donc la première année, vous finissez 3e, je crois. Ouais. Comment c'était l'état d'esprit dans le vestiaire ? À quel moment vous avez senti que vous allez réussir vraiment une grande saison ?
Bah, ça commence déjà en D2. Ou en D2, l'année où on monte, on pulvérise tout le monde. On avait battu beaucoup de records. Je crois que Reims en a battu l'année dernière, mais ils avaient tenu quand même une quinzaine d'années. Et donc notre réussite en Ligue 1 avait déjà germé avec cette saison en Ligue 2 où Vaïd en fait sa principale force c'est qu'il avait réussi à créer un état d'esprit où tout était possible où on était capable de renverser des montagnes et même si on était moins doué que les autres ou moins talentueux, on était capable collectivement déjà d'avoir peur de personne et donc on a commencé à jouer. Je crois que notre premier match c'est contre Monaco qui était champion de France en titre avec Gagliardo, Simonet, ouais. Une grosse équipe. Et on avait fait match nul à Grimont-Préjoris contre Monaco. Et après, c'était lancé. Il ne suffit de pas grand-chose. Mais Vaïd avait été un leader exceptionnel.
Ouais, et la saison d'après, c'est tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais c'est sûrement la plus aboutie de ta carrière. Je crois que j'ai quelques stats, tu marques 11 buts en 27 matchs, c'est beaucoup pour un milieu de terrain. Tu étais axial à ce moment-là, vraiment numéro 8.
À gauche.
Mmh. Bon, finalement, en fait, ça passe encore. Donc 11 buts en 27 matchs, c'est pour toi la meilleure saison de ta carrière ?
Oui, c'est là où j'ai eu le plus de réussite. Parce que j'en ai mis 11 en championnat, j'en avais marqué aussi en Coupe d'Europe. Ouais. Donc j'avais réussi à faire vraiment une belle saison pleine. Et comme c'était avec la Ligue des Champions, il y a eu Manchester United, il y a eu la Corogne, il y a eu des grosses équipes. Donc forcément, ça donne confiance et ça tape dans l'œil de pas mal de gens.
Donc après une première saison en Ligue 1 tranquille, là c'est vraiment à ce moment-là que tu te dis bah, « en fait, je suis à l'aise » et il y a comme un déclic où tu te dis « en fait, je peux vraiment aller plus haut, plus fort ».
Ouais, déjà la première année, ça avait été plus que correct. Après la deuxième année, ça a été, oui, certainement un palier de franchi.
Ouais, et tu l'as dit, vous avez joué contre Manchester United, qui est à l'époque une top équipe européenne, qui avait été champion, je crois, peut-être 2 ans, champion d'Europe, peut-être 2 ans auparavant. Comment on se sent quand on va affronter David Beckham, Solskjaer, Andy Cole et Ita Ferguson sur le banc? Comment on se sent quand on va à Old Trafford, par exemple?
Alors, en fait, c'est... Pour remettre les choses dans leur contexte, c'était en 2001 et c'était notre premier match de Ligue des Champions parce qu'en fait, la journée précédente, c'était le lendemain des attentats du 11 septembre et donc la journée de Champions League avait été annulée. Donc on n'avait pas joué, je crois que c'était contre la Corogne ou l'Olympiakos et notre entrée en matière en Ligue des Champions, c'est à Old Trafford.
Pas mal, hein.
Et en fait, ce qui se passe, oui, parce qu'en fait, le Manchester de l'époque, c'est Beckham, il y a Giggs, il y a Véron, il y a Van Nistelrooy devant, il y a Roy Keane... Il y a Laurent Blanc, il y a Fabien Barthez dans les buts. C'était vraiment une grosse, grosse équipe. Et ce qui se passe en Coupe d'Europe, c'est qu'on a l'habitude de s'entraîner la veille dans le stade. Mm. Donc la veille, on s'entraîne à Old Trafford. Donc c'était vide, mais c'était tellement impressionnant pour nous qui débarquions presque de D2 il y a à peine 10 mois auparavant, que le fait de s'entraîner la veille, ça nous a un peu désinhibés d'une certaine manière. Ce qui fait que le lendemain, quand le coup de sifflet a retenti et qu'il y avait 70 000 personnes qui criaient Manchester United, on était déjà un peu moins crispés et on a fait un bon match puisqu'au final, on perd que
1-0, ouais.
1-0 un peu contre le cours du jeu sur une frappe un peu ratée de Beckham à la fin. Donc,
Mais le match retour se passe mieux, vous faites un partout et surtout, tu marques, je crois. Mm. Tu te rappelles de ce but? Tu peux nous le décrire? Parce que genre, si tu fermes les yeux, tu t'en rappelles vraiment.
Ouais, ça fait partie des buts qui ont marqué ma carrière et qui restent hyper importants. Et je me souviens, c'est Sylvain Ndiaye qui me donne le ballon entre deux joueurs dans l'intervalle et je fais une prise de balle. J'arrive à faire une première feinte de frappe, je pense, et après, je frappe pied gauche. Et j'ai eu la chance de marquer et ça me permet d'égaliser.
Bon, malheureusement, vous n'arrivez pas à passer ce premier tour, enfin ce tour de Ligue des Champions, finissant en Europa League, en Coupe de l'UEFA à l'époque, mais sans regret.
Non, parce qu'à l'époque, c'était Manchester qui était vraiment l'une des meilleures équipes européennes et la Corogne qui, elle aussi, c'était une très, très grosse formation. Il y avait Diego Tristan, Valerón, il y avait les Brésiliens Donato, Mauro Silva. C'était une très, très grosse équipe.
Mais c'est là, pas la Corogne qui avait éliminé le PSG quelques temps avant si, c'est ça. Le fameux 4-3, là.
Exactement. Ouais, ouais. Enfin, c'était... Là, maintenant, la Corogne n'est plus trop sur la carte du football européen. Mais à cette époque-là, c'était une très, très grosse équipe.
Ouais. Bon, après, avec Lille, vous finissez 5e cette saison-là. Donc vous confirmez en gros, même si c'est moins bien au classement, mais vous confirmez, vous êtes un bon club de Ligue 1. Et juste après, tu pars à Liverpool. Pourquoi Liverpool?
Bah, disons que c'était un peu la mode en Angleterre de partir pour les Frenchies. La destination, c'était plutôt Arsenal.
Ouais.
Avec Henry, Vieira, Pires, Wiltord qui brillaient.
Wenger, t'y as pas contacté, non, par hasard?
Non, c'était Gérard Rouillet. Mm-hmm. Et donc, il voulait un peu franciser aussi son équipe. Et voilà, je pense que Liverpool, ça se refusait pas trop.
Ouais, il a dit de toi, je crois, que t'étais le nouveau Zidane. Pourtant, t'as pas des initiales en double, c'est pas BB ou CC. T'es pas d'origine algérienne, donc t'as eu la... Je dirais pas la malédiction, mais tous ceux qui ont eu ce nouveau Zidane n'ont pas forcément réussi une très très grande carrière. Est-ce que comment tu l'as pris quand il a dit ça à la presse?
En fait, je pense que c'était une maladresse de sa part.
Ouais.
Et il a voulu un peu me valoriser, mais il m'a fait du mal en fait. Enfin, cette comparaison était trop importante. Il y a 15 Zizou, moi c'était mon idole. Ça reste mon idole et je pense qu'il n'y a personne qui peut être comparé à Zidane. Donc, je pense que ça a été plus néfaste que positif.
Pourtant, en préparant l'épisode, je disais j'étais sur des forums de supporters de Liverpool, il y avait ta fiche. Et ce qui ressort, c'est que tous ceux que j'ai lus en tout cas, c'était, quand ils te décrivaient, c'était un très bon joueur de ballon, avec une grosse qualité technique, une bonne qualité de passe et tout. Mais ce qu'ils disent tous, c'est qu'il n'a peut-être pas réussi à s'adapter au football anglais. C'est juste ça, en fait. Il n'y a pas de... Je sais pas si c'est le public de Liverpool qui est très bienveillant ou si vraiment c'est juste parce qu'ils ont vraiment analysé tes saisons là-bas. Est-ce que toi, tu arrives à analyser ce qui a fait que tu n'as pas réussi à t'imposer à Liverpool ?
Disons que je restais sur une courbe vraiment ascendante avec une année à Lille exceptionnelle, avec une sélection en équipe de France. Donc j'étais vraiment en pleine confiance. Et le problème, c'est que Gérard Houllier avait décidé de me faire un peu comme avait fait Arsène Wenger avec Robert Pires, de me laisser un peu sur le banc pour que j'apprenne, pour que je vois, pour que j'observe. Sauf que en fait, mon état de forme après, mon état de confiance, il s'est un peu amenuisé avec cette période sur le banc. Et après, quand il a fallu rejouer, j'avais pas le rythme nécessaire, j'avais perdu un peu la confiance. Après, ce qui se passe, c'est que dans un grand club comme Liverpool, il n'y a que des internationaux. Donc si on ne fait pas un bon match, on ne peut pas prétendre à jouer, avoir 10 matchs d'affilée pour retrouver la confiance ou retrouver le rythme, c'est absolument impossible. Il faut jouer, il faut performer, parce que si on ne performe pas, il y a un mec qui est sur le banc et qui est international et qui attend qu'une chose, c'est de jouer aussi. Donc ça a été un peu compliqué. Après, sur le style du jeu anglais, c'est vrai que sur les années à Liverpool, ce n'était pas forcément les meilleures années de Liverpool, donc le collectif manquait de fluidité et ça nous a empêché, ou ça m'a empêché moi personnellement, de pouvoir tirer mon épingle du jeu.
T'as besoin de ça, d'avoir une équipe avec un jeu assez fluide pour pouvoir vraiment t'exprimer ?
Je pense qu'à cette époque-là, ouais, certainement que j'avais besoin d'un peu plus de confiance, et que dans un grand club comme celui-là, c'est difficile d'aller la chercher ou de la trouver. Donc voilà, après la deuxième année, celle où je devais vraiment montrer mon adaptation, j'ai eu une hernie discale au dos qui m'a empêché de jouer sur les 6 premiers mois. Donc, il a manqué aussi un petit peu de réussite. Dans une carrière, il faut être bon au bon moment.
Ouais.
Et parfois, être bon au bon moment sur un match, sur deux matchs, ça peut être des déclics. Et là, malheureusement, j'ai eu une blessure, j'ai eu une adaptation un peu tronquée. Et je n'ai pas fait la bascule du bon côté.
Ouais. Et tu avais quel âge quand tu es arrivé à Liverpool
En 2002, j'avais 24 ans.
24 ans. Et comment ça se passe pour un type de 24 ans qui a vécu toute sa vie en France, qui passe de Lille à Liverpool, une grande ville de foot, en termes d'adaptation dans la ville? Comment tu t'es senti, toi?
Pas trop mal. Il y avait pas mal de joueurs qui parlaient français. On avait un coach français. J'avais la chance d'être appelé en équipe de France, donc je faisais des allers-retours assez réguliers. Non, franchement, ça va. Après, et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire maintenant que si on a envie de s'adapter quelque part, on peut s'adapter n'importe où. C'est juste une question de volonté, quoi.
Mm-hmm.
Donc, à partir du moment où on veut s'adapter quelque part, on s'adapte. On fait les efforts qu'il faut.
Bon, on est obligé de parler de l'ambiance d'Anfield. Elle est si exceptionnelle que ça ?
Alors, l'ambiance, bien sûr, les soirs de match, elle est exceptionnelle. Après, ce qui est assez impressionnant dans ce club, c'est l'histoire, c'est le passé, c'est l'impact que peut avoir les glorieuses années sur ce club-là. On sent, quand on était à Anfield, on voit des fantômes partout. On voit des fantômes des titres, on voit des fantômes de grands joueurs. Et je pense que c'est un club qui a une histoire. Et en fait, c'est ce qu'on n'a peut-être pas forcément partout dans les clubs en France. On manque d'une histoire riche. Et en fait, une histoire riche, bien entendu que c'est des titres, mais c'est aussi des défaites, c'est aussi des tragédies. C'est aussi plein d'événements qui font qu'un club peut marquer les esprits. Et je pense que Liverpool, à ce niveau-là, entre les tragédies qu'on connaît et qui ont été assez marquées et marquantes, les retournements de situation comme quand ils ont gagné la Ligue des Champions en 2005, tout ça fait l'histoire d'un club, et c'est pour ça que ce sont des clubs spéciaux.
Est-ce que pour toi, c'est le plus grand club du monde, ou il y en a un, ou deux, ou trois, ou quatre au-dessus ?
Non, mais ils font partie des plus grands clubs du monde. Quand on avait été, à l'époque, on était parti en tournée en Asie. Ça faisait partie des premières fois où des clubs européens partaient en tournée en Asie. Et on était à Hong Kong, on était en Thaïlande, mais on ne pouvait pas sortir de notre hôtel.
Ah ouais.
À l'époque, même si Internet n'était pas autant développé, mais il y avait 2000 personnes en bas de notre hôtel. Ils avaient tous les maillots, ils avaient tous les trucs, ils avaient tous. C'était incroyable. Et le fait d'avoir gagné la Ligue des Champions, c'est vraiment des clubs qui ont marqué l'histoire. Donc je pense qu'il y a le Real, il y a le Barça, il y a Manchester, il y a Liverpool, il y a le Milan AC, il y a la Juventus, voilà, il y a le Bayern Munich. Il y a une petite dizaine de clubs qui font partie des top clubs mondiaux. Et où qu'on soit dans le monde, on peut en parler et on sait qu'ils seront connus.
Et en France, est-ce qu'il y a des clubs qui approchent à peu près ce que tu as vu à Liverpool en termes d'institution? Pas forcément des clubs où tu as joué, mais des clubs français que tu connais ou que tu as joué qui se rapprochent de Liverpool un peu.
Rien n'est vraiment comparable. C'est vraiment des niveaux au-dessus. Mais disons qu'en termes de passion, Marseille, c'est quand même assez impressionnant. La ferveur du peuple marseillais, des supporters partout, c'est assez incroyable. Après, il y a des institutions, un club comme Bordeaux, où il y a une histoire, où il y a une institution qui est assez forte. Mais rien n'arrive à la hauteur de Liverpool ou des grands clubs européens.
Ouais, tu as cité Marseille et Bordeaux, c'est des clubs où tu as joué, donc tu l'as vraiment vu, notamment à Marseille. Même en une saison, tu as eu le temps de voir cette passion des Marseillais pour leur club, pour le foot.
Ouais. Non, c'est incroyable. Je me souviens d'un stage de reprise au mois de janvier où on était parti à Granville, je crois en Normandie, et on a fait une séance d'entraînement devant 5000 personnes. Non, franchement, c'est incroyable.
Ouais. Malgré l'expérience qui s'est pas très bien passée en termes sportifs, je parle. Qu'est-ce que tu retiens de ton passage à l'OM, justement, dans ce club à la ferveur dont tu viens de parler?
Tant qu'on n'a pas joué à Marseille, on ne peut pas comprendre ce que ça représente, je pense. La ferveur, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Et c'est vrai que cette passion, elle est absolument incroyable. Mais elle peut aussi être très négative quand elle se retourne contre son équipe et contre son club. C'est un peu ce qui se passe en ce moment.
Ouais, je confirme. Et après Marseille, c'est Bordeaux où tu es encore en prêt. Donc à Marseille, tu étais en prêt. Bordeaux, tu joues bien. Enfin, c'est mon avis, mais je ne sais pas si tu le partages. Mais à Bordeaux, je trouve que tu joues bien. Tu as beaucoup de temps de jeu. Tu fais beaucoup de matchs pleins. Et pourtant, le Bordeaux ne lève pas l'option d'achat. Et tu t'es exprimé dans la presse, je ne sais plus en quelle année, mais tu as dit que tu avais tout donné pour Bordeaux. Mais Bordeaux n'a pas tout donné pour toi. C'est un truc qui t'est resté en travers de la gorge, ça?
C'est le plus gros regret de ma carrière.
Ouais.
Parce que parfois, il y a des matchs entre un joueur, entre un club, entre un joueur, entre un coach, entre différents aspects du jeu qui font que, voilà, on se sent bien. Et je pense que j'avais vraiment trouvé le club qu'il me fallait à Bordeaux. Le coach, c'était Ricardo, donc l'actuel coach, qui était top, avec qui j'avais une très bonne relation. On finit deuxième, on fait une très grosse saison derrière le très grand Lyon là, qui dominait tout. Et effectivement, j'étais prêté seulement par Liverpool. Bordeaux voulait lever l'option d'achat dès le mois de janvier-février. Finalement, ils ne l'ont pas fait parce que Liverpool savait que je jouais bien, qu'on allait se qualifier pour la Ligue des Champions et qu'ils allaient récupérer un peu d'argent. Donc moi j'étais pas trop inquiet, et puis finalement sur la fin de saison, pour des raisons un peu off the pitch et politique, l'option d'achat n'a finalement pas été levée. Ça reste le plus gros regret de ma carrière, parce qu'après, comme on avait fini deuxième, on se qualifiait pour la Ligue des Champions et ils étaient tombés dans le groupe de Liverpool. Ricardo à l'époque voulait également mon frère. Donc on aurait pu jouer ensemble encore une fois dans un club. Et puis j'avais vraiment trouvé un club qui me correspondait et dans lequel je me sentais vraiment très très bien.
Et comment tu le vis au moment où tu apprends que tu ne vas pas continuer à Bordeaux? Ça se passe comment dans ta tête à ce moment-là?
Bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais vraiment rester à Bordeaux. Et puis à un moment donné, quand les discussions capotaient pour des bêtises et pour des raisons politiques, j'ai fini par être vraiment très énervé. Et à partir du moment où il y a eu un projet plutôt sympathique qui s'est présenté, j'étais tellement énervé que j'ai basculé tout de suite sur l'autre projet.
Qui était Rennes, c'est ça?
Exactement.
Donc tu signes là-bas et là aussi, t'as du mal à commencer, mais après vraiment tu t'imposes. Enfin, je regardais encore les résumés de matchs et tout. Enfin, tu fais une série de matchs titulaires, tu joues tous les matchs 90 minutes plein de fois. C'est peut-être après Lille, le club où tu t'es le plus exprimé. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça.
À Bordeaux, j'avais fait une grosse saison aussi.
Ouais.
Mais après, à Rennes,
dans la durée,
ouais, c'était plutôt bien. Et effectivement, au début, j'ai un peu de mal, je pense, à digérer le fait de ne pas être resté à Bordeaux, où j'étais pas très bien au début à Rennes. J'avais pas forcément envie d'être là. Et puis finalement, j'ai réussi à me mettre dedans. Et au bout de 6 mois, ça a commencé à être un petit peu mieux, à tourner comme j'avais envie que ça tourne. Et puis, c'était vraiment un club, à cette époque-là, qui, je pense, basculait vraiment dans le, dans la bonne partie et avec un petit peu d'ambition, avec un petit peu de moyens. On a fait, je pense, 4 saisons quand j'étais là-bas plus que correct, puisque la première année, on loupe la Ligue des Champions pour des raisons, encore une fois, politiques. Avec un match remis de Nantes à Toulouse, alors que les supporters de Nantes avaient envahi le terrain. Et ce match a été donné gagné pour Toulouse, alors que c'était au moins match nul. Et dans ces cas-là, on aurait pu avoir la troisième place, battre le record de la position pour le Stade Rennais et puis participer au tour préliminaire de la Ligue des Champions. Malheureusement, ça ne s'est pas fait aussi parce qu'on a fait un match nul à Lille à la dernière minute, à la dernière journée. C'est Fauvert qui vient marquer un but de la tête alors qu'on menait 1-0.
Tu t'en rappelles encore.
Ouais, parce que je me souviens, on mène 1-0. Je suis un peu dans l'histoire du but. Je donne à Outaka et Outaka, il marque. Et puis après, les Lillois qui ne jouaient plus rien du tout. Il y avait Debuchy, il y avait Jean de Macoun. Moi, j'étais au milieu, je leur dis, les mecs, c'est fini. De toute façon, le match, il est terminé. Mais pas de manière négative, ouais, mais dans le sens où, ouais, de toute façon, on n'a plus rien à jouer. Il reste 5 minutes, 10 minutes. Et il y a Nicolas Fauvert qui rentre. Et il courait partout. et sur tous les coups de pied arrêtés, il était là, il voulait mettre sa tête, tout ça. Et puis, il a fini par mettre une tête et à égaliser. Alors que ça ne changeait rien pour eux, ça ne changeait rien pour lui. Après, il a commencé à faire une fois le tour du terrain, deux fois le tour du terrain, comme s'il avait marqué le but de la finale de la Coupe du Monde. Et ouais, je m'en souviens très très bien. Ouais.
Mais j'ai l'impression, dans tout ce que tu dis depuis le début de cet épisode, c'est qu'un de tes plus grands regrets, c'est de ne pas avoir joué avec les champions plus souvent. Tu l'as joué avec Lille, avec Bordeaux, tu aurais pu la jouer si tu avais continué. Avec Rennes, ça s'est joué, tu l'as dit, à ce fameux but de Fauvert. C'est vraiment un regret de ne pas l'avoir joué plus souvent.
Oui, forcément. Mais après, plus que de ne pas l'avoir joué, c'est plus d'avoir performé comme il fallait qu'on performe.
Ouais.
Et à Rennes, ce qui m'ennuyait beaucoup, c'est je pense que la famille Pinault a consenti d'énormes efforts, que ce soit en termes de temps, d'énergie ou financier. Et je pense qu'à un moment donné, ça aurait été bien pour eux aussi qu'ils puissent avoir un retour, entre ouais. guillemets. Et le fait de finir troisième, ça aurait pu être un retour. Et puis après, je pense que tu voulais en parler, mais il y a ces finales de Coupe de France où on doit gagner largement et où un titre, une Coupe de France par-ci, une Coupe de France par-là, une qualification pour la Ligue des Champions. Je pense que la famille Pinault aurait pu avoir un juste retour par rapport aux investissements qu'ils avaient pu réaliser.
Mais c'est ça qui est terrible avec ce club, c'est au milieu des années 2000, je me rappelle avec Alexander Frey, tout ça, c'était un peu déjà à la limite. C'était un club qui enquiquinait beaucoup d'équipes, qui produisait un jeu qui était vraiment pas mal. Après, avec toi aussi, c'est qu'il y a une équipe qui avait une bonne dynamique, mais il y a toujours eu ce petit truc qui a manqué. Et j'ai l'impression que, en fait, cette époque-là, si c'était pas là, en fait, c'était fini. Et on le voit maintenant, Rennes a du mal à revenir un peu dans le haut de tableau. C'est un club que tu suis toujours, en dehors de ton activité de consultant, mais c'est un club que tu suis toujours.
Oui, j'y vais dimanche, là.
Ouais.
Mais non, forcément, je pense que la finale qu'on perd contre Guingamp en 2009. Mm-hmm. Elle a conditionné après les autres finales perdues. Si on l'avait gagné, je pense que le club serait rentré dans une dynamique un peu plus de gagnant, alors que là, ils sont restés dans une dynamique de loser, entre guillemets, et que là aussi, la bascule, elle ne s'est pas faite comme il fallait.
Ouais. Bon, il faut aussi qu'on parle d'un truc important chez les Chérous, c'est la fratrie. Mm-hmm. Tu l'as évoqué, tu as un frère qui est plus jeune, c'est Benoît Chérou. Comment ça se passe avec lui? Comment c'était à la maison, le foot, les rapports au foot? Est-ce que t'étais le meilleur? Est-ce que c'est lui qui était le meilleur quand vous étiez plus jeune? C'était comment?
C'était plutôt bien et plaisant de partager cette même passion. Comme il a 3 ans de moins, je pense qu'il a un peu subi, entre guillemets, mon passage avant lui. Mm-hmm. Donc il avait les mêmes coachs que moi, il avait les mêmes profs que moi à l'école. Et forcément, il était sans cesse comparé. Moi, j'étais pas comparé, mais c'était lui qui était comparé. Ah ouais, on a eu ton frère, ah ouais, voilà, bon. Que ce soit positif ou négatif, ça a certainement dû le saouler à certains moments de passer après moi. Ça a peut-être présenté quelques avantages pour lui parfois, mais je pense que c'était plutôt un peu saoulant. Il a réussi à se forger une carapace par rapport à ça, ce qui lui a permis d'être certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort mentalement que moi pour affronter le milieu du football qui n'est pas forcément toujours évident. Et preuve en est, c'est que justement, il devait me rejoindre à Bordeaux. Bon, ça s'était pas fait. Et après, il devait me rejoindre à Rennes aussi quand il part d'Auxerre. Et finalement, il choisit d'aller à Marseille, où moi, je l'avais absolument découragé d'aller à Marseille. Parce que j'y étais passé 2 ans ou 3 ans auparavant et que ça s'était pas très bien passé. Et que je lui avais donné un peu tous les avantages et les inconvénients. Et lui, il voulait vraiment franchir un palier en passant d'Auxerre à Rennes. Il n'avait pas vraiment l'impression de le franchir. En revanche, en passant d'Auxerre à Marseille, il avait l'impression de le franchir. Il ne m'a pas écouté et il a eu raison de ne pas m'écouter parce qu'il a fait cette année là-bas. Il a été champion de France, il a gagné des titres et puis il a fait une... Je pense qu'il a marqué l'histoire du club Marseille.
Quel joueur ? Ouais, je suis supporter de l'OM et je me rappelle encore de son pied gauche. Franchement, super joueur. Et vous avez joué aussi à Lille. Enfin, il était à Lille aussi en même temps que toi. Comment ça se passait justement au centre d'entraînement ou tout ça ? C'était parce que vous traîniez ensemble ou il y avait une certaine distance quand même ?
Bah, disons qu'il avait ses copains. Moi, j'avais mes copains. On n'avait pas tout à fait le même âge. Et à cette époque-là, 3 ans, c'était quand même assez important.
Ouais.
Mais bon, bien sûr que moi, j'étais là pour lui et lui, il était là pour moi.
C'est un peu comme à l'école, j'ai l'impression, ce que tu dis.
Ouais. Mais que malgré tout, c'était plutôt un avantage. Et après, on a réussi à jouer ensemble. Et notamment, on a joué ensemble le fameux match contre Monaco où on se qualifie en battant Monaco pour la Ligue des Champions. Donc, on a réussi à cohabiter. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit regret sur le fait de ne pas avoir pu rejouer ensemble après. Ça aurait pu être vraiment très sympa parce que au final, pendant notre carrière, on ne se voyait plus après. Parce que lui, il était loin, moi, j'étais à un autre endroit. Donc, pendant les vacances, de temps en temps, rapidement, mais sinon, c'était tout, quoi.
Ouais. Et jouer ensemble, quand vous étiez vraiment plus jeune, je veux dire, avant d'être professionnel, c'était un truc que vous étiez dit, il faut qu'un jour, on joue ensemble.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, parce que quand on était jeune, on ne savait pas si l'un allait être professionnel, l'autre allait être professionnel, les deux allaient l'être. Donc, c'était absolument pas une fin en soi.
Ouais, ouais. Et comment ça se passait, du coup, les repas de famille, quand vous vous retrouviez, est-ce que ça parlait foot
Ouais, forcément.
Avec les parents, comment eux, ils étaient justement par rapport au fait que leurs deux fils, je ne sais pas si vous avez d'autres frères et sœurs.
Non, 100% de réussite.
Voilà. Comment ils étaient par rapport à ça?
Bah, ils étaient plutôt fiers, forcément, parce que quand on part dans les centres de formation, on quitte la famille. Ma mère, elle m'a vu partir en premier, après elle a vu partir mon frère, donc elle s'est retrouvée un peu toute seule à un moment donné. Et c'était pas forcément évident de laisser partir ses enfants à 15 ans ou à 16 ans du foyer familial sans avoir aucune garantie qu'on allait être professionnel. C'est facile à dire maintenant, mais sur le coup, ça ne l'était pas forcément. Donc après, quand ils ont vu qu'on avait eu la chance de réussir tous les deux, ils étaient hyper fiers.
Ouais, et t'as des nouvelles de lui encore, je sais pas ce qu'il devient pour le coup.
Il est revenu sur Paris, il a terminé sa carrière à Toronto, en MLS, il a été champion avec Toronto. Et il a fait une belle petite carrière globale et à l'étranger avec ses 3 années passées à Toronto. Il a fait une année de coach là-bas où il s'occupait des U17. Et là, il est revenu à Paris parce que la France, malgré tout, lui manquait. Et il avait envie de revenir et de se rapprocher de ses amis et de sa famille.
Ouais. Et c'est quoi, du coup, tes projets pour l'avenir ? Tu l'as dit, tu ne vas pas rester consultant toute ta vie. T'aspires à quoi ?
Bah, là, actuellement, je suis depuis un peu plus d'un an manager général de la section féminine du Paris Saint-Germain. Où je pense que c'est plutôt là que se situe mon avenir à moyen terme plutôt que dans le consulting ou dans le journalisme. Donc voilà, j'ai accepté ce challenge et cette mission de la part du Paris Saint-Germain et je ne savais pas trop où j'allais quand ils me l'ont proposé. Et finalement, un an après, je suis ravi et je suis super content et voilà, et j'ai envie que certainement ça se poursuive et il y a des objectifs élevés, il y a des moyens importants, il y a le développement du football féminin qui est exceptionnel. Donc voilà, je suis ravi de faire ce que je fais actuellement.
C'est un domaine dans lequel tu te voyais d'être manager à la fin de ta carrière. Quand tu commençais à réfléchir à la fin de ta carrière, c'était vraiment un truc auquel t'aspirais. Ouais. À quel moment tu t'es dit en fait c'est ça que je veux faire? Parce qu'il y en a qui font pas du tout, qui restent pas du tout dans le milieu du foot, mais toi tu savais que tu voulais rester là-dedans?
Ouais, et j'ai assez vite su que je voulais pas être coach. Parce que le métier de coach a beaucoup changé. Et bon, déjà que je perds mes cheveux, je pense que je les aurais perdus encore beaucoup plus vite. Et je voulais plus me projeter sur des missions ou sur des projets à moyen terme que sur du court terme. Et les coachs, ils sont dans l'utilisation sur du très court terme. Si les résultats ne fonctionnent pas, ils sont virés au bout de 3 mois. Moi, j'ai plus envie de m'inscrire sur un projet, de m'inscrire avec faire progresser les jeunes, recruter des joueurs qui correspondent parfaitement au style de l'équipe, au style du coach, à l'état d'esprit du club, de la ville. Et puis voilà, mener des projets à moyen terme, c'est plus ce que j'avais envie de faire. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir faire ce que je fais actuellement.
Et concrètement, ta mission, c'est quoi ?
Je suis responsable de la section féminine du Paris Saint-Germain. Donc je m'occupe de tout, des finances, du recrutement, du staff, des joueuses... des RH, du financier, du légal, de tout.
C'est assez large quand même. T'as passé des diplômes pour ça ou c'est...
Ouais.
T'es passé par où ?
J'ai fait le manager général de Limoges, donc mm-hmm. du CDES, ouais. qui est maintenant commence à avoir une réputation et qui commence à être bien connu dans le ouais. milieu. Et puis après, j'ai enchaîné par le même diplôme, mais à l'international avec l'UEFA, qui s'appelle le MIP, Master for International Player. Mm-hmm. Et voilà, ça m'a fait quatre années supplémentaires d'études. Et je dois être l'un des footballeurs qui a, les anciens footballeurs qui ont cumulé le plus d'études.
Bah, c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce qui manque à ce PSG version féminine pour atteindre le top niveau? C'est déjà une très très belle équipe. Mmh. C'est l'une des deux meilleures équipes en France, voire même d'Europe. Qu'est-ce qui manque justement pour ce petit truc pour décrocher le trophée ou les trophées, pour vraiment s'installer comme un club phare?
Disons qu'en France, on a la malchance, entre guillemets, d'avoir le meilleur club du monde avec Lyon. Mmh. Et quand on veut se comparer, je pense que Lyon a 10 ans d'avance sur nous, où Jean-Michel Aulas avait compris depuis pas mal de temps qu'il pouvait se servir du football féminin comme d'un levier de communication, de titres, d'image. Et voilà, donc ça fait 12 ans qu'elles sont championnes de France. Nous, on est en train de rattraper le temps perdu. Je pense qu'on le rattrape plutôt bien, mais elles sont encore certainement la meilleure équipe du monde. Et je pense que sur justement la projection qu'on peut avoir, on s'en rapproche de plus en plus. Donc il nous faut un peu plus d'expérience, il nous faut un peu plus de qualité, il nous faut un peu plus de tout pour pouvoir s'en rapprocher, mais je pense qu'on est vraiment plus très loin.
Si tu gagnes la Ligue des Champions, enfin si Paris gagne la Ligue des Champions, je parle du Paris dont tu t'occupes, donc PSG féminine, les PSG féminines, si Paris gagne la Ligue des Champions, est-ce que ce sera la même sensation que si tu l'avais gagné en tant que joueur, ou tu penses que ça n'aura rien à voir? C'est vraiment c'est de la fiction, je sais, mais comment toi tu l'imagines?
Non, je serais hyper fier et j'ai envie de dire que quand on est sur le terrain et qu'on est un joueur, bien sûr qu'on est acteur principal, mais là avec la responsabilité globale que j'ai, je pense que ma responsabilité elle sera encore peut-être plus importante mmh. sur toute l'organisation globale que j'ai mise en place, sur les joueuses que j'ai pu choisir, sur le staff que j'ai pu choisir. Donc j'en serais hyper fier et c'est le but, hein. Je travaille pour ça, c'est l'objectif du club. Donc on va tout faire pour essayer d'y parvenir.
Maintenant, et donc c'est ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Exactement. Un titre champion de France d'abord ou Ligue des Champions, ou bien les deux d'un coup?
Les deux d'un coup.
Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite et tout ce que je leur souhaite aussi. Et est-ce que tu as un petit mot pour finir? Est-ce qu'il y a une chose dont tu veux parler, que ce soit de foot ou hors foot, un truc que tu as envie d'évoquer?
Avant de venir, Julien Bray m'a dit tu te feras interviewer par Samuel Umtiti. Il avait pas tort.
Ouais, ça c'est la coupe de cheveux et la barbe, c'est pour ça.
Est-ce que tu as la même démarche?
Ça en soirée, ouais. C'est seulement en soirée, c'est dans un cadre bien défini. D'accord. Voilà, peut-être qu'un jour tu auras l'occasion de le voir, mais là comme ça.
Pas aujourd'hui,
je pense pas. Quoique, bon, c'est de l'audio, on pourra faire ça après l'enregistrement. Il y a pas de souci. Bah écoute, Bruno, merci beaucoup d'être venu dans mon quête. C'était très sympa. Bonne continuation chez Beansport, au PSG. Et pour la suite, des titres et plein de beaux matchs encore à regarder. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée, salut.
Au revoir.
Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par moi-même, Abdallah Swadri. Générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux avec la musique de Mehari. Montage et mixage par Laurie Galigani et à la prise de son, Charles De Cilia. Merci à Bruno Chéroux d'avoir accepté notre invitation. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Pensez aussi à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ce serait vraiment top et ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis, quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao !